C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Axel.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui, comme chaque mardi à midi, pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le 26 septembre et aujourd'hui nous parlerons de l'utilisation des données dans le sport.
Appelées couramment data, elles sont de plus en plus utilisées, principalement dans le but d'améliorer les performances, quitte à profondément transformer la pratique de certaines disciplines. Et pour mieux comprendre ce que sont ces data, à quoi elles servent et comment elles sont utilisées, nous serons avec Nicolas Benguigui, chercheur au GREC.
Vous aurez aussi l'occasion d'entendre Chris Bernard, vidéo et data analyste du Stade Malherbe de Caen, qui nous parlera de son métier et de l'usage des data au service du football.
Mais avant cela, c'est l'heure des infos sciences de la semaine.
Et on commence avec le retour sur Terre de la sonde OSIRIS-REx.
Oui, avec à son bord le plus gros échantillon d'astéroïdes jamais prélevé. Dimanche dernier, OSIRIS-REx a atterri dans le désert de l'Utah aux États-Unis avec une belle cargaison, 250 grammes de roche issue d'un astéroïde, alors que les équipes de la NASA pensaient n'en récolter que 60. Cet astéroïde, c'est Bennu, il est en orbite autour du Soleil, mais reste à faible distance de l'orbite terrestre, quelques 300 millions de kilomètres quand même. La sonde américaine revient donc d'un voyage de 7 ans qui lui a permis de ramener ce précieux échantillon.
Et quel était le but de cette mission ?
Eh bien, la sonde est restée en tout 7 mois sur place. Elle a d'abord été placée en orbite pour photographier l'astre, pour étudier son relief et la composition de ses roches. Et si c'est intéressant d'aller explorer cet astéroïde, c'est parce qu'il s'est formé il y a environ 4,5 milliards d'années, soit à peu près à la même époque que la Terre. C'est pour cela qu'il va nous aider à comprendre les origines des planètes du système solaire et plus largement le fonctionnement de notre univers. Les principaux chercheurs de cette mission espèrent aussi trouver des indices sur l'origine de la vie, comme de l'eau gelée et surtout de la matière organique, comme des acides aminés. Le CNRS vient de dévoiler son palmarès et cette année, c'est l'écologue Sandra Lavorel qui reçoit la médaille d'or.
Et oui, jeudi dernier, le prestigieux centre de recherche a récompensé les travaux de Sandra Lavorel, membre du laboratoire d'écologie alpine des universités de Grenoble et de Savoie-Mont-Blanc. Elle succède au chimiste Jean-Marie Tarascon et devient ainsi la première écologue à remporter ce prix.
Mais pour quels travaux est-elle récompensée précisément ?
Eh bien, Sandra Lavorel est récompensée pour son projet WARM. Ce dernier étudie l'effet du changement climatique en montagne en réchauffant de l'air ambiant de quelques degrés pour étudier ses conséquences sur l'écosystème, des recherches qui permettent, selon Antoine Petit, PDG du CNRS, d'appréhender le fonctionnement et les dynamiques des écosystèmes en réponse aux changements planétaires auxquels nous sommes confrontés. En Suisse, des chercheurs viennent de découvrir un nouveau type de cellule dans notre cerveau.
Oui, vous connaissez les neurones, bien sûr, qui transmettent des informations dans notre corps, mais il existe aussi les cellules gliales qui protègent et nourrissent ces neurones. Ce sont les deux principaux types de cellules de notre cerveau. Enfin, pas tout à fait. C'était le cas jusqu'à ce que des chercheurs suisses découvrent un troisième type de cellule. C'est en quelque sorte une cellule hybride. Cette dernière, c'est un astrocyte. Elle est donc située à mi-chemin entre ces deux grandes familles.
Alors tout ça, c'est assez abstrait. Elles permettent quoi concrètement ces nouvelles cellules ?
Elles ont un rôle prépondérant dans notre système nerveux. Ces cellules contrôlent le niveau d'excitation des hormones et auraient notamment un effet protecteur contre les crises d'épilepsie. Ces astrocytes, ils servent aussi à consolider la mémoire, d'où leur implication dans la maladie d'Alzheimer. Sans eux, on aurait de bien plus grandes amnésies. C'est notamment ce qui a été observé chez des souris. Chez nous, les humains, c'est l'analyse bioinformatique de bases de données déjà existantes qui a permis aux chercheurs de vérifier la présence de ces cellules. Et puis une découverte étonnante, les chauves-souris seraient capables de se débarrasser du cancer.
Et oui, selon une étude récente, ces dernières pourraient détenir des indices vitaux pour faire disparaître cette maladie. 6 protéines liées à la réparation de l'ADN et 46 protéines liées au cancer ont été identifiées comme ayant subi des altérations génétiques. Ces protéines jouent un rôle crucial dans la prévention du cancer et sont deux fois plus présentes dans le groupe de chauves-souris observées que chez les autres mammifères.
Mais est-ce pour autant un espoir pour éradiquer le cancer chez l'homme ?
Ah, évidemment, il faut pas s'emballer, mais selon Armin Scheben, auteur principal des travaux sur la chauve-souris, ces dernières constituent la première étape vers la traduction de la recherche sur la biologie unique des chauves-souris en informations pertinentes pour comprendre et traiter le vieillissement et les maladies telles que le cancer chez les humains. Et pour finir, Axel, des chercheurs ont réussi à reconstituer des séquences génétiques d'une espèce disparue.
Oui, Simon, cette espèce, c'est le tigre de Tasmanie, aussi appelé le loup de Tasmanie, ou encore le loup marsupial. Il s'est éteint en 1936 à cause de la chasse intensive menée par l'homme. Tout ce qui nous reste aujourd'hui, ce sont quelques photos et des espèces conservées dans des musées. Rien de plus, même si c'est une première. Des chercheurs suédois sont parvenus à reconstruire l'ARN de cette espèce disparue grâce à des morceaux de peau et de muscles conservés au musée de Stockholm en Suède.
Alors, ARN, ADN, quelle est la différence entre les deux? Est-ce que ces deux molécules ont la même fonction?
C'est vrai qu'on a tendance à les confondre, pourtant elles n'ont pas tout à fait le même rôle. L'ADN, l'acide désoxyribonucléique, on le connaît bien, c'est la molécule présente dans les cellules qui contient l'information génétique. L'ARN, lui, c'est autre chose, il intervient pour traduire et transférer le code génétique dans les cellules de notre corps. C'est une molécule plus instable, elle se fragmente plus facilement en petits morceaux, ce qui rendait jusque-là impossible son prélèvement sur une espèce disparue. Cela va donc permettre de mieux comprendre les conditions de son évolution génétique. Avec cette technique, tous les animaux disparus pourraient potentiellement être l'objet de ce genre d'études. Quant au fantasme de faire revivre des animaux disparus, un labo australien a promis de faire naître un bébé tigre de Tasmanie dans la prochaine décennie.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
On entend de plus en plus parler des data, aussi appelées données. Elles sont de plus en plus utilisées dans le sport, tantôt pour améliorer les performances, tantôt pour élaborer le meilleur système de jeu possible, tantôt pour recruter les joueurs les mieux adaptés à un club.
Et face à cette nouvelle façon de pratiquer le sport, nous chercherons à comprendre concrètement ce que sont les data, à quoi elles servent et comment elles sont utilisées.
Et pour en parler, nous serons tout à l'heure avec Chris Bernard, vidéo et data analyste au Stade Malherbe de Caen.
Mais avant cela, nous recevons Nicolas Benguilly, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au GREC, le laboratoire de sciences numériques de l'Université de Caen. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement qu'est-ce qu'on entend par le terme data, qu'est-ce que ça comporte?
Les data constituent en fait toutes les informations que l'on peut récupérer sur les performances sportives qui sont réalisées. Alors ça a toujours été quelque chose qui a préoccupé les sportifs et les entraîneurs bien sûr, mais depuis une trentaine d'années, on a vu une véritable révolution avec des moyens de capture de données qui sont de plus en plus performants, qui sont de plus en plus accessibles et qui permettent de collecter donc des informations de plus en plus nombreuses, dont le traitement est rendu possible aussi par des méthodes d'analyse qui sont de plus en plus poussées.
Alors, parfois, on entend aussi parler de big data et de mégadonnées. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier?
Bien, c'est la quantité en fait de ces données, de ces informations qui sont disponibles, rendues possibles justement par des technologies qui permettent de collecter sur le terrain de sport, soit par la vidéo, soit par des capteurs embarqués sur les sportifs eux-mêmes, des milliers, des millions de données qui vont constituer donc des bases très intéressantes, mais qu'il s'agit de pouvoir traiter. Et là, il faut des outils aussi adaptés, on appelle ça les fouilles de données, data mining, qui permet d'aller chercher dans ces masses de données très importantes des régularités, des informations qui ne sont pas accessibles a priori sur un traitement plus classique.
Et donc il n'y a pas que les simples data, aussi les big data peuvent être utilisés dans le sport du coup?
Oui, bien sûr, mais ça nécessite des outils, des moyens d'analyse, des chercheurs, des analystes qui vont avoir le savoir-faire pour aller extraire justement à l'intérieur de ces masses de données énormes les éléments qui vont pouvoir servir aux entraîneurs et aux sportifs. Il y a donc un traitement, un filtre qui est à opérer.
Alors justement, comment concrètement est-ce qu'on collecte ces données? Parce qu'on entend beaucoup parler de ces données-là. Quel est le travail justement qui est opéré à ce niveau-là?
Alors, il y a deux grands types. Il y a le premier, ce sont les capteurs embarqués de type accéléromètre, gyroscope, qui équipent déjà les téléphones portables, les montres connectées, mais qui peuvent être aussi placés dans des capteurs, par exemple pour les joueurs de rugby ou les joueurs de football, des capteurs qui sont placés sur l'arrière du maillot, dans les protèges tibias pour le football, dans le ballon parfois même, pour avoir cette information. Donc ça, ce sont donc les capteurs embarqués. Et puis, il y a également tout ce qui est vidéo, donc analyse d'images avec donc les retransmissions télé, et puis des systèmes qui sont dédiés, comme par exemple au tennis, hein, ça a commencé dès les années 2000 avec le système Hawkeye, qui est un système qui équipe les courts de tennis, qui a été utilisé d'abord pour assister l'arbitrage et puis aussi pour agrémenter les retransmissions sportives, mais qui très vite a permis de fournir des données sur les trajectoires de balles et également sur les déplacements des joueurs, qui, quand elles sont analysées, peuvent fournir des informations sur les stratégies, sur le rapport de force, sur l'efficacité de tel ou tel coup, telle ou telle trajectoire.
Donc on a un éventail quand même très 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 large d'outils ouais. qui peuvent permettre de récolter ces datas.
Effectivement, sur ces deux aspects-là, ça donne une gamme extrêmement importante. Mais finalement, l'enjeu, hein, c'est celui que je disais, maintenant les capteurs sont là, ils donnent toutes ces informations. L'enjeu essentiel, c'est le traitement, c'est-à-dire de rendre exploitables ces données, parce que parfois, les données sont là, mais finalement leur signification est difficile à trouver.
Alors ces datas, elles permettent une plus grande précision, une plus grande acuité, mais à quel point est-ce qu'un sportif ou un entraîneur peut se fier aux datas? Parce que j'imagine qu'il y a tout de même des certaines limites quand même.
Oui, alors par la quantité, quand il y a trop d'informations, finalement c'est inexploitable. Hein. Les entraîneurs, les sportifs ont besoin d'informations qui soient exploitables, concrètes et en nombre limité, parce qu'ils disposent de capacités de traitement et surtout d'intégration pour les sportifs qui sont limitées hein, dans les sports ultra rapides et ils sont nombreux. Il n'est pas possible d'avoir des temps de réflexion, d'analyse, d'intégration qui sont longs, donc il faut vraiment des choses qui soient directement exploitables dans des temps très court. Donc il y a cet enjeu. Il y a l'enjeu du temps réel, c'est-à-dire d'avoir des informations qui arrivent au fur et à mesure et qui vont pouvoir alimenter donc les stratégies des sportifs, des entraîneurs. Bon, quand il y a plus de temps sur l'analyse post-performance, là évidemment on peut y consacrer davantage de temps et dans un processus de formation, l'amélioration de performance, c'est quelque chose qui peut s'envisager sur une durée plus longue.
Et est-ce que les datas peuvent aussi être utilisées pour améliorer la santé des sportifs, que ce soit par rapport à l'alimentation ou au sommeil par exemple ?
Oui, alors il y a effectivement tout un tas de capteurs qui sont disponibles pour faire du tracking du sommeil, hein, et ça c'est des choses qui sont disponibles aussi pour non seulement pour les sportifs, mais aussi pour toutes les personnes, hein, avec un nombre d'applications qui est assez important. Bon, avec une fiabilité, je suis pas spécialiste du domaine, hein, mais j'ai des collègues à l'UFR STAPS et dans un labo voisin qui travaille sur ces questions-là, avec une fiabilité qui est plus ou moins importante quand c'est des choses qui sont commercialisées tout un chacun, il y a des outils qui sont plus performants et qui pour la performance de haut niveau peuvent être effectivement utilisés pour le sommeil. Pour l'alimentation, je ne suis pas sûr de bien connaître, mais on peut envisager à l'avenir des capteurs qui permettraient effectivement d'avoir des informations sur le métabolisme. Il y a une entreprise qui a développé des capsules ingérables qui permettent de faire un suivi alors plutôt de la température, c'était le point de départ, mais peut-être, là il faudrait regarder ou se documenter sur la digestion et puis sur ensuite les performances. Et toutes ces informations qui sont disponibles sur le suivi des performances peut rendre compte de progrès ou au contraire de difficultés d'un sportif. Hein, quand on est capable de comptabiliser le nombre de sprints, l'intensité des sprints dans un match de football ou de rugby, on peut voir des variations dans la performance du sportif qui reflètent en fait une qualité d'entraînement, mais aussi de sommeil, d'alimentation. Et puis après, ce sont aux sportifs et aux entraîneurs d'expérimenter des choses et de voir ce que ça induit finalement en termes de performance.
Alors on a parlé de sommeil et d'alimentation à l'instant, est-ce qu'on pourrait par exemple aussi les utiliser pour éviter certaines blessures par exemple ?
Oui, alors c'est effectivement des choses qui sont envisagées hein, et donc associées au traitement des données, il y a les méthodes d'intelligence artificielle aussi qui sont mises en œuvre pour justement identifier des indices ou des indicateurs qui vont, je disais tout à l'heure pour l'amélioration des performances, mais aussi des signaux qui vont indiquer des risques de blessures qui peuvent apparaître, avec une prudence ou en tout cas une limite à avoir sur le côté éthique. Parce qu'à partir du moment, où on a des informations sur une blessure potentielle ou sur une difficulté d'un sportif, eh bien, c'est des choses qui peuvent finalement le mettre en difficulté par rapport à une carrière. Et donc, il y a des questions éthiques de protection des données qui viennent s'associer avec ces données qui sont des informations qui peuvent aller donc sur le versant de la santé.
On aura peut-être l'occasion tout à l'heure d'aborder la question de la protection des données. Est-ce que ces méthodes, sinon d'exploitation des data dans le sport, elles peuvent aussi être mises au service de la santé de chacun d'entre nous ?
Oui, bien sûr. C'est des choses qui sont développées en parallèle et puis qui découlent parfois de ce qui est mis au haut niveau. Et comme je le disais, dans des capteurs aussi simples que ceux qui équipent, enfin si je puis dire aussi simples, les smartphones et puis les montres connectées, il y a la possibilité d'accéder à un ensemble d'informations qui est très important sur le suivi de la fréquence cardiaque, l'activité, le nombre de pas réalisés dans une journée ou dans le suivi d'un entraînement en course à pied, en natation, etc. Il y a de plus en plus d'éléments qui sont disponibles. Et par rapport à la fréquence cardiaque, il y a des applications sur certaines montres qui permettent d'avoir des alertes qui sont données aux personnes quand il y a la détection d'un rythme cardiaque qui suit quelque chose qui peut être considéré comme à risque.
On continue de parler des data avec vous, des data dans le sport avec vous, Nicolas Benguigui. Mais avant, je vous propose d'écouter Chris Bernard. On l'a reçu dans nos studios la semaine dernière. Il est venu nous parler de son utilisation des données en tant que vidéo et data analyst au Stade Malherbe de Caen.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Bonjour Chris Bernard.
Bonjour.
Vous êtes donc vidéo et data analyst pour le Stade Malherbe de Caen depuis le début de la saison. Concrètement, quel est votre rôle au sein du club ?
Alors, il faut savoir que je viens d'arriver, comme vous l'avez dit. Le rôle est multiple, dans le sens où, comme vous le dites, j'ai plusieurs missions, donc vidéo et aussi data analyst. Donc, sur la partie plutôt vidéo analyst, elle va concerner la relation entre le staff technique, donc les entraîneurs, on va dire, l'entraîneur principal, les entraîneurs adjoints, le préparateur physique, l'entraîneur des gardiens, avec tout ce qui va être l'analyse des performances, qu'elles soient sur les matchs, les matchs de compétition officielle, les matchs amicaux ou même les entraînements. Derrière, ça va être l'exploitation, on va dire, qualitative des performances. Comment on analyse ça ? Est-ce que les joueurs répondent au plan de jeu ? Est-ce que les joueurs répondent à ce que l'adversaire nous propose comme problématique ? Donc ça va être plutôt la partie vidéo. Et la partie data, elle va se situer notamment au niveau du recrutement. Donc apporter un outil complémentaire à la cellule de recrutement qui est en place depuis quelques saisons maintenant sur un petit peu l'exploitation des données, à savoir un petit peu les facteurs de performance mesurables par la donnée. Alors on pourra en discuter sur ce qui est un facteur de performance mesurable, mais en tout cas l'idée est que j'apporte cette complémentarité-là à la cellule déjà en place, donc sur après on va dire l'évaluation et la comparaison entre les joueurs qu'on pourrait éventuellement cibler pour nous rejoindre dans un futur plus ou moins proche au Stade Malherbe.
Alors justement, on l'a dit en introduction et vous l'avez rappelé, c'est un poste qui est nouveau au Stade Malherbe. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau ?
J'apporte, on va dire, un autre œil. Et puis, on va dire, j'apporte avec moi toute cette partie data et cette partie exploitation de la donnée qu'il n'y avait pas forcément avant, avec un œil nouveau. Je suis, on va dire, un petit peu l'intermédiaire entre la donnée brute qui nous est fourni par la LFP et le partenariat qu'ils ont...
Qui est la Ligue de football.
Qui est la Ligue de football professionnel, en effet, et qui ont conclu un partenariat avec Stats Perform depuis quelques saisons maintenant, pour la Ligue 1 et la Ligue 2, qui est notre fournisseur de données sur un petit peu les aspects technico-tactiques, mais également les aspects performance athlétique. Donc, de par ce partenariat-là, nous avons pas mal de données à exploiter. Alors après, en fonction du plan de jeu et en fonction des idées globales et du projet de jeu du coach, on va s'orienter plutôt vers des données plutôt que d'autres. Mais l'idée est celle-là. Alors en l'occurrence, j'essaie de faire l'intermédiaire entre les millions de lignes de données que peut générer un match et derrière l'exploitation qu'un coach peut avoir sur le message à transmettre à ses joueurs.
Et comment est-ce que vous travaillez concrètement ? À quoi ressemble votre journée en tant que vidéo et data analyst ?
Alors la journée, il n'y a pas de journée forcément type, on va dire, parce qu'en fonction des semaines qui peuvent être plus ou moins chargées, comme vont l'être les deux prochaines semaines avec 4 matchs en 11 jours, on n'a pas forcément de journée type. Maintenant, on va dire une semaine se compose en plusieurs micro-cycles, si on peut appeler ça comme ça, avec du coup une analyse sur notre match du week-end, sur les premiers temps, et par la suite, ça va être une analyse sur nos adversaires futurs. Donc avec du coup de l'observation de match, que ce soit par la vidéo, mais aussi après l'observation des données donc, que peut générer, du coup, comme je vous l'ai dit précédemment, le partenariat Stats Perform et LFP, derrière utiliser ces données-là pour éventuellement trouver des failles qu'on n'aurait pas pu voir à la vidéo. Donc là, ça rentre un petit peu dans l'aspect process de travail, où on travaille tout d'abord sur l'aspect qualitatif, parce qu'on a besoin de comprendre le contexte avant d'exploiter la donnée brute. Et derrière, on visionne la donnée pour savoir si elle correspond, si elle confirme, si elle infirme un petit peu nos visions un petit peu sur les adversaires, ainsi que sur nos propres performances, avec des fois ce qu'on peut observer avec notre œil, qui peut être biaisé par nos perceptions en direct, ou nos perceptions, on peut dire, un petit peu cognitives sur une performance. Et derrière, quand on exploite la donnée, elle peut confirmer ou un peu infirmer un petit peu l'impression première. Mais il faut également aussi prendre en considération tout le contexte qu'il y a derrière. Parce que, comme vous le savez, le foot, ce n'est pas forcément un contexte très carré. C'est quand même un sport assez complexe, interpénétré, avec une logique interne qui n'est quand même pas forcément très figée. Donc il y a un contexte derrière toutes ces données qu'il faut quand même prendre en considération, même si ces données-là peuvent permettre d'objectiver certaines performances.
Et je suppose que vous êtes souvent amené à travailler avec l'entraîneur, donc comme vous l'avez expliqué, et les préparateurs physiques aussi. Concrètement, comment ça se passe avec eux? Comment vous travaillez? Comment ça se coordonne?
Alors en fait, si vous voulez, donc nous dans notre staff, on a Jean-Marc Fulan qui est notre coach principal, qui diffuse un petit peu les idées générales de son plan de jeu, de ses protocoles de jeu, de son cadre de jeu. Et derrière, nous, que ce soit les entraîneurs adjoints, préparateurs physiques, entraîneurs gardiens et moi-même, on se met au service de son plan de jeu et au service de ses principes de jeu. Et donc à travers ça, que ce soit le préparateur physique qui organise la charge d'entraînement de la semaine de manière à faire en sorte que les joueurs puissent répondre au plan de jeu du coach, par la suite, il doit aussi interpréter, analyser un petit peu les performances des joueurs, que ce soit à l'entraînement par l'exploitation des données GPS qu'il peut avoir à l'entraînement, et aussi les exploiter les données qu'on peut récolter derrière suite à un match.
Et donc, vous, ça peut vous permettre derrière de conseiller des tactiques ou des joueurs à mettre en place sur le terrain auprès du coach pour pouvoir correspondre à l'adversaire ou au plan de jeu?
Non, l'idée n'est pas celle-là. Il y a vraiment une hiérarchie dans le staff et le coach décide. Nous, on est vraiment là pour analyser. Si jamais il demande notre point de vue, on peut lui donner. Mais par contre, personnellement, en tant qu'analyste, je ne me permets pas de...
Oui, vous n'êtes pas dans le sportif pur.
Si, je suis dans le sportif.
Enfin, je veux dire, dans le coaching et dans le...
Exactement. Et là, il est entouré de personnes bien plus compétentes que moi, à savoir ses entraîneurs adjoints qui sont sur le banc et qui peuvent diffuser des informations et qui sont en relais direct auprès des joueurs. Moi, de par ma position dans le stade, notamment en direct, et dans ma position après au quotidien, je suis plus dans un rôle en termes prise de hauteur, si on peut dire ça comme ça. Et sur l'analyse, derrière les choix qui sont effectués en direct, c'est vraiment les décisions des coachs.
Vous apportez vraiment les informations que vous permettent les datas aux coachs et aux entraîneurs, c'est bien ça?
C'est ça, on transmet les informations. Comme je vous l'ai dit précédemment, je me fais l'intermédiaire entre la donnée et le coach de manière à pouvoir, on va dire, traduire ce que la donnée permet de manière un peu intelligible pour le staff et les joueurs.
Comment est-ce qu'on se forme à ce genre de métier? Quelles sont les qualités requises pour devenir data analyst?
Et les connaissances aussi.
Ok. Alors, si vous voulez, il y a plusieurs, on va dire, plusieurs cursus qui peuvent être empruntés. Moi, j'ai emprunté un cursus qui était d'abord STAPS, donc universitaire, mais dans les sciences du sport. Donc, j'ai fait 5 années, de la licence 1 jusqu'au master 2. Par la suite, je me suis spécialisé sur l'aspect analyse de la performance avec un diplôme universitaire à Montpellier. Et suite à ce diplôme-là, j'ai eu quelques années d'expérience avant d'arriver sur Caen. Et puis, je me suis également ouvert sur un autre DU sur l'analyse des bases de données. Donc, en fait, ce qui me permet d'avoir une double casquette. Maintenant, il y a des data analystes qui sont beaucoup plus spécialisés sur l'aspect programmation, l'aspect data, et qui passent par des écoles et des universités qui peuvent proposer des formations essentiellement basées sur les statistiques et la gestion des statistiques.
Et donc justement, quelles sont les données qui sont particulièrement intéressantes et particulièrement importantes à analyser pour améliorer les performances des joueurs?
Après ça, comme ça va dépendre beaucoup du plan de jeu du coach, parce que bon, alors pour les... pour les plus experts d'entre nous sur, dans le monde du sport, en fonction des plans de jeu, en fonction des postes sur le terrain, il va y avoir des facteurs de performance qui peuvent être différents. Voilà, donc, et puis même pour un même poste, en fonction des plans de jeu, les facteurs de performance peuvent différer aussi, en fonction de... Si on part du principe, on va comparer entre une personne comme Guardiola et une personne comme Mourinho, il va peut-être demander forcément les mêmes compétences et les mêmes performances à un seul joueur. Donc là, ça peut différer. Nous, ce qu'on peut prendre en considération, on a évoqué précédemment, les aspects purement athlétiques. Donc, par exemple, que pour le recrutement d'un joueur, on peut se cibler sur un joueur avec un profil bien précis, avec des répétitions de course à haute intensité, un volume de course, une vitesse maximum, sur l'aspect purement athlétique. Mais ça peut aussi rentrer en compte sur l'aspect technico-tactique, où là, juste l'aspect technique, ça va être la chose la plus basique, qui peut être le pourcentage de passes vers l'avant réussies, jusqu'à des données un peu plus, on va dire, poussées, qui vont être sur l'aspect tactique, et que ça, certains fournisseurs de données permettent d'avoir, d'autres un peu moins, mais qui va être l'exploitation éventuelle d'ouverture d'espace de jeu en fonction des courses qui sont proposées. Pour un attaquant, ça va être peut-être le nombre de courses effectuées en profondeur qui permet de libérer un espace entre les lignes. Tous ces aspects-là, en fait, ça va dépendre vraiment du plan de jeu du coach. Nous, l'idée, si vous voulez, en tant qu'analyste data ou vidéo et intermédiaire par rapport à la performance, si vous voulez, l'idée, c'est... de pouvoir programmer et de pouvoir récolter le maximum de données et derrière, en fonction des plans de jeu, en fonction du coach, en fonction de la direction sportive, qu'on puisse permettre d'établir les facteurs de performance pour trouver les profils de joueurs les plus intéressants sur la partie recrutement et pareil sur la partie progression du joueur. En fonction des forces et des faiblesses d'un joueur, on peut éventuellement cibler des données très précises.
Mais les données qui sont traitées dans le foot, pour les plus suiveurs d'entre nous, on le remarque, elles ont tendance à être de plus en plus denses. Comment est-ce qu'on arrive à les trier et à les hiérarchiser? Parce que vous parliez des données fournies par la LFP, il y en a quand même une grosse quantité. Comment est-ce que vous faites ce travail de tri et de hiérarchisation?
Ça, c'est une collaboration qui doit avoir lieu et qui a lieu entre la direction sportive et le staff technique, dans le sens où On le sait bien, on va avoir des critères plus ou moins précis en fonction du niveau de jeu et des critères qui vont être différents en fonction des postes. Et derrière, selon les postes, il va y avoir une hiérarchisation des facteurs de performance. Pour un défenseur, la notion de duel aérien, pourcentage de duel gagné en l'air est plus importante que pour un ailier. Donc derrière, ça va être un constat et une hiérarchisation qui est faite en amont, en accord.
Oui, c'est ça, c'est votre rôle déjà de prédéfinir. Quels vont être les critères importants pour tel ou tel poste.
C'est ça. Et puis après, derrière, en fonction, on peut sortir des fenêtres de rapport statistiques par poste de manière à pouvoir classer les facteurs de performance en fonction des postes et la hiérarchisation des critères. Je vous dis une bêtise, mais la notion de course en profondeur, comme je vous l'ai dit précédemment, pour un attaquant, ne m'intéresse pas pour un défenseur. Ça paraît logique, mais derrière... C'est des exemples qui sont basiques, mais qui permettent de comprendre qu'il y a une hiérarchisation, comme vous dites. Et derrière, ça va dépendre d'un accord qui est fait en amont avec le staff et la direction sportive.
Et c'est un métier qui reste relativement récent. Est-ce que vous avez vu des évolutions ces dernières années? Vous qui avez travaillé notamment en centre de formation, vous l'avez dit.
Mm-hmm. Des évolutions, alors je reste jeune dans le métier, ça fait 6 ans que je fais ça, mais il y a des évolutions dans le sens où déjà on est de plus en plus nombreux à sortir de formation. Chaque année, chaque saison, il y a de plus en plus de formations qui voient le jour, alors qui sont plus ou moins pertinentes en fonction des contenus qui sont proposés. Mais il y a de plus en plus de formations. Derrière, il y a de plus en plus d'étudiants et de personnes qui se revendiquent en tant qu'analyste vidéo ou data. Et il faut faire attention aussi à l'emploi de ces termes-là. Mais il y a une évolution. En France, ça reste tout jeune. Et on continue à être en progression parce que si vous voulez, dans les pays anglo-saxons et les pays nordiques, tels que le Danemark notamment, j'ai pu croiser quelques entraîneurs qui étaient du Danemark qui sont venus un petit peu se former et être curieux de ce qui pouvait se passer en France. Ils ont une culture beaucoup plus développée sur l'analyse vidéo, sur l'analyse des données que nous. Et donc du coup, ça reste quand même un point qui va, je pense, à s'accélérer dans les années à venir en France. Pour vous donner des exemples, à United ou à City, ils sont 8 ou 9 analystes vidéo. À Lyon, là, avec l'arrivée de, de Fabio Grosso, ils ont désormais 4 analyses vidéo plus 2 data, il me semble. Donc ça se démocratise, ça se développe. Après, ça reste un budget important parce que y a quand même des partenariats et des collaborations qui doivent être faits avec des fournisseurs de données et avec on va dire le pouvoir du sport et les finances que ça génère.
Oui, tout le monde n'est pas au même niveau, on va dire.
Tout le monde n'est pas au même niveau et puis les prestataires le comprennent et ont un cahier des charges et des devis qui peuvent être importants selon les clubs.
Alors on parle spécifiquement de foot, mais est-ce que le traitement des données il va être différent selon les sports? Est-ce que vous, par exemple, vous pourriez devenir du jour au lendemain analyste data pour un club de hand ou même pour des athlètes qui font des sports individuels?
Alors je vais dire que le traitement de la donnée, la programmation et on va dire la data vise et tout ce qui s'ensuit, ça change pas en fonction des sports. Maintenant, tout ce qui va être traitement de la donnée pure, la hiérarchisation, l'interprétation de la donnée, pour moi, c'est quelque chose quand même qui est très très important et je pourrais jamais être analyste data ou vidéo dans un autre sport comme je peux l'être à l'heure actuelle, étant donné que je n'aurais pas la légitimité pour pouvoir transmettre des informations que je ne maîtrise pas.
Oui, ça nécessite une connaissance du sport en lui-même.
Pour moi,
plus que du traitement des données.
Alors c'est les deux.
Oui. C'est plus universel le traitement des données que...
Le traitement des données est universel, voilà, exactement.
Et c'est aussi important de connaître le sport que de savoir finalement traiter les données.
C'est ce que j'aime à m'accroire en tout cas. Après, peut-être que d'autres auront un point de vue différent sur la question. Mais pour moi, l'aspect traitement, programmation, on peut la faire dans n'importe quel sport. Maintenant, le rôle le plus important, ça reste le fait de transmettre le bon message. Et pour transmettre le bon message, il faut quand même comprendre de quoi on parle. Et je ne serais pas autant expert en hand, en volley ou en basket qu'en foot.
Merci beaucoup Chris Bernard d'être venu à notre micro. Je rappelle, vous êtes data et vidéo analyste au Stade Malherbe de Caen. Dans quelques instants, nous serons de retour avec Nicolas Benguigui. Mais avant, on va juste faire une petite pause musicale et écouter Au Madeleine de This Is. A tout de suite dans C'est pas fou.
C'est Théo Madeleine de D6, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est pas faux et nous sommes aujourd'hui avec Nicolas Benguigui, chercheur au GREC, le laboratoire de sciences numériques de l'Université de Caen, pour parler de l'utilisation des data dans le sport. Est-ce que à chaud vous avez envie de réagir à l'interview de Chris Bernard qu'on vient d'entendre sur des points que vous souhaiteriez appuyer?
Oui, c'est une interview très intéressante et je crois qu'il dresse bien les missions, les enjeux, les limites des analystes. Avec un domaine qui se développe beaucoup en France, comme il l'a bien dit, parce que la France a un peu de retard par rapport à d'autres pays, comme Chris Bernard l'a dit, par rapport aux pays anglo-saxons et nordiques, il y a effectivement un déficit. J'avais eu l'occasion d'aller passer du temps en Angleterre et précisément dans les clubs qu'il a cités, enfin auprès de collègues qui travaillaient pour en contact avec ces clubs-là. Et effectivement, dès les années 2000, ces postes d'analystes existaient. Donc il y a, disons, une petite quinzaine, vingtaine d'années de retard dans la mise en œuvre en France.
Et Chris Bernard parlait du fait que travailler en tant que data analyst pour le foot, c'est pas tout à fait la même chose que de travailler par exemple pour le hand. Est-ce que vous confirmez? Et quelles sont les différences notamment entre les sports individuels et les sports collectifs?
Oui, alors c'est évident qu'il y a une expertise à avoir pour le sport que l'on analyse, mais qui peut aussi se faire avec l'expérience, hein, donc avec du temps. Et puis malgré tout, le but est de répondre à la demande des entraîneurs et des sportifs. Donc à partir du moment où il y a une vraie interrogation de ce côté-là, l'analyste finalement va dans un premier temps répondre à des demandes qui sont effectuées. Et donc dans ce cas-là, l'expertise dans le sport à proprement parler est peut-être un petit peu moins nécessaire. Ça dépend en fait du contexte dans lequel on intervient. Pour les sports individuels, c'est une autre dimension, c'est qui va se situer davantage dans l'analyse des performances physiologiques ou dans l'analyse du mouvement. Donc là, c'est effectivement un registre qui est peut-être assez différent. Les outils vont pas être les mêmes. Donc là, il y a peut-être effectivement un saut important à réaliser. En même temps, pour les sports collectifs, il y a toute la composante entraînement, physiologie, effort qui est présente. Donc pour des personnes comme Chris Bernard, il y a aussi cette compétence, en plus avec un cursus STAPS qui permet d'aborder de manière très large la performance, il y a cette possibilité d'aller vers le sport individuel. Peut-être que la démarche d'ailleurs du sport collectif vers le sport individuel est plus facile à faire dans ce sens-là, bon, quoi que ça peut se discuter.
Et vous, en ce qui vous concerne, si je dis pas de bêtises, vous avez pas mal travaillé sur le tennis. Comment est-ce que dans son sport on utilise les data justement sur la différence entre sport individuel et sport collectif?
Oui, alors là, la question de l'utilisation des données en tennis est intéressante. D'une part parce qu'il y a eu, comme je le disais tout à l'heure, des technologies qui sont apparues il y a maintenant plus de 20 ans et qui permettent de collecter des données tout à fait intéressantes. Et en même temps parce que c'était vraiment un sport où il n'y avait pas du tout cette culture par rapport à la, peut-être la complexité des interactions qui peuvent apparaître. Donc il a fallu du temps finalement pour que ces choses-là se mettent en place. Mais maintenant, on voit effectivement les sportifs, les joueurs de tennis, joueuses de tennis qui font appel à ces données-là. Il y a des sociétés qui sont spécialisées dans le traitement de ces données. Et il y a des personnes, des analystes, à l'instar de Chris Bernard, qui se sont spécialisés aussi dans ce domaine-là. Donc là, c'est la quantification en fait, de l'efficacité du joueur ou de la joueuse dans l'exécution du coup. Nous, on a beaucoup travaillé sur le service et le retour parce que c'est le point de départ. Et puis parce que ça a une importance capitale pour le jeu, mais l'analyse est peut-être plus simple que d'aller vers l'échange où la complexité peut-être augmente au fur et à mesure. Donc c'est quantifier par exemple l'efficacité d'un service en termes de vitesse, en termes de zone touchée, en termes d'effet par rapport à l'impact que ça peut avoir sur le gain du point, mais également sur le rapport de force qui s'exerce, qui apparaît dans l'échange. Ça, c'est des éléments sur lesquels on va de plus en plus déterminer le rapport de force, quels sont les éléments qui permettent de prendre l'avantage dans un point et d'avoir le maximum de chances de s'imposer.
Aujourd'hui, comment est-ce que l'utilisation des data a transformé le sport et continue de le bouleverser encore aujourd'hui ?
Alors oui, ça le bouleverse. Et en même temps, Chris Bernard disait bien que la question des prises de décision reste bien dans les mains de l'entraîneur et du sportif. Donc il y a peut-être même une vigilance à avoir par rapport à ça, de pas être noyé ou avoir son entraînement et sa performance dictée par la performance. Mais là-dessus, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude à avoir parce que on est aussi dans des activités qui sont hyper complexes. Qu'il sera, j'en parlais tout à l'heure, impossible de mettre en place dans des temps de jeu qui sont extrêmement contraints. Donc il reste une place évidemment essentielle à l'entraîneur et aux sportifs en eux-mêmes. Après, évidemment, ça va dans le sens de la professionnalisation de ces activités, bon, qui avait déjà démarré depuis pas mal de temps, mais ça va dans ce sens-là. Et puis, on en a parlé aussi tout à l'heure, ça donne la possibilité à tout un chacun, et sur les questions de sport santé, c'est tout à fait bénéfique, de prendre le contrôle de son activité, d'avoir une compréhension de son activité et des bienfaits de cette activité qui est plus importante. Et donc, de ce point de vue-là, ça change les pratiques et de manière très positive.
Et est-ce que malgré tout, dans le sport moderne, c'est quasiment devenu indispensable d'utiliser au moins un minimum les data ?
On peut considérer que oui, parce qu'on ne comprendrait pas qu'une équipe ne se place pas dans ces conditions. Un étudiant STAPS m'avait rapporté la préparation de l'équipe de France de football lors de la Coupe du Monde précédente, où de ce qu'il m'expliquait, le staff avait fait le choix de ne pas travailler spécifiquement les pénalties, d'avoir quelques séances comme ça, mais de ne pas avoir, comme certaines équipes ont pu le faire, hein. Il y a un exemple célèbre avec le club de Chelsea qui avait fait un énorme travail, c'était dans le début des années 2000, sur le tir de pénalty, et notamment de l'équipe adverse qui rencontrait en finale le Bayern de Munich. C'était Petr Cech, le gardien à l'époque, et qui s'était révélé extrêmement payant, puisqu'il y avait eu 7 pénalties dans le match. Il y avait une séance de tir au but à la fin, et le gardien était parti 7 fois du bon côté. Et donc tout le travail avait consisté à regarder comment les joueurs du Bayern de Munich tirait leur pénalty sur des quantités de matchs extrêmement importantes. Et ce travail-là avait été donc extrêmement important. Et là, pour l'équipe de France, j'avais été très surpris, voilà, d'avoir cette information. Alors peut-être à vérifier, hein, mais dans quelle mesure. Mais en tout cas, ça s'est révélé assez négatif, puisque la séance de pénalty face à l'Argentine, on s'en souvient, elle a été quand même très négative. Et bon, après, ça peut se jouer à quelques détails, mais on sentait vraiment que l'équipe de France n'était pas très au point par rapport à l'exercice.
Alors vous avez parlé de l'importance des data début 2000 dans le club de Chelsea et à quel point ça avait porté ses fruits. Depuis quand globalement est-ce qu'on a commencé à utiliser les data dans le sport ?
Alors,
est-ce qu'on peut dater cette apparition ?
Dater, c'est difficile parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça a toujours été une préoccupation des sportifs et des entraîneurs, avec les moyens qui étaient disponibles. Mais le sport est une activité de performance où la mesure est importante, donc on peut considérer que depuis le début des activités sportives, cette question-là est posée. Mais je dirais il y a eu une révolution avec la technologie, les outils dont on parlait tout à l'heure, qui permettent de collecter ça, et ça c'est plutôt la fin du siècle dernier, donc la fin des années 90, début des années 2000, où il s'est passé beaucoup de choses. Et puis il y a eu un film qui a marqué pas mal qui s'appelle Moneyball, ou Le Stratège, de Ben Miller avec Brad Pitt, ça c'est en 2001, et c'est l'histoire véridique d'une équipe de baseball aux États-Unis et de son entraîneur qui se situait en milieu de tableau. Et l'entraîneur a fait appel à un statisticien pour l'aider, et avec le travail qui a été réalisé. Alors bon, je suis pas spécialiste de baseball, hein, c'est une activité un peu obscure quand on regarde ça de France, mais avec des éléments des données précises sur qui mettre à la batte, qui mettre au lancer, etc., comment positionner l'équipe, il a réussi à avoir des résultats extrêmement positifs par rapport à des joueurs qui a priori n'étaient pas extrêmement bien cotés. Et donc ce film a marqué, en retraçant l'histoire donc de cet entraîneur et de cette équipe, a marqué assez fortement la communauté sportive aux États-Unis, hein, et on peut dire que c'est là que les choses ont commencé, avec des sports qui s'y prêtent d'ailleurs, hein, le baseball, le basket, le football américain sont des sports où il y a beaucoup d'arrêts de jeu, où les situations de départ sont assez standardisées, et où finalement ça se prête à l'analyse de données, hein. Donc on peut situer ça vers la fin des années 90, ce point de départ.
En début d'émission, vous parliez aussi de l'aspect éthique du traitement des données. Est-ce qu'il y a des limites qui peuvent être juridiques? On peut penser au fait que le traitement des datas, ça rentre en contradiction, par exemple, avec le règlement général sur la protection des données.
Ouais. Oui, alors, une des grosses questions pour les sportifs professionnels, c'est de savoir que des informations sur leur performance, c'est une chose, mais aussi sur leur santé, c'est là que ça devient plus problématique, vont être disponibles pour les recruteurs. Et donc, ces données qui sont en nombre très importantes, permettent effectivement d'avoir des éléments sur la performance, le nombre de passes réussies, le nombre de buts marqués, le nombre de dribbles, de duels gagnés, etc. Bon, ce qui là est à peu près cohérent et de mon point de vue ne pose pas de problème puisque c'est la performance en elle-même. Là où ça devient problématique, c'est quand des informations vont permettre de faire des inférences sur la santé ou un problème physique potentiel, parce que là on est sur des questions donc de santé qui doivent être protégées, qui doivent être restreinte au milieu médical et par conséquent il doit y avoir des protections qui sont mises en place. Bon, ces choses là sont quand même bien traitées, me semble-t-il, parce que la question de la protection des données a fait l'objet de nombreuses réflexions et de nombreux travaux dans d'autres registres que celui du sport. Donc on peut espérer qu'il va y avoir un transfert de ces principes de protection des données qui se fera également dans le sport, et c'est le cas d'ailleurs.
Alors Nicolas Benguigui, vous êtes chercheur spécialisé dans les sciences cognitives et les neurosciences. En quoi est-ce que ces disciplines sont liées aux data?
Alors, une première raison, c'est que en fait, ces data amènent à réaliser des prises de décision. À partir des données qu'on collecte, les entraîneurs, les sportifs vont faire des prises de décision sur des choix de mise en place d'entraînement, sur des choix de stratégies qui vont être mis en place. Et ça, c'est tout à fait quelque chose qui s'étudie dans le domaine des sciences cognitives. Donc ça, c'est un point d'intérêt. Et puis, il y a aussi maintenant des outils qui permettent d'analyser le comportement, d'analyser le cerveau en fonctionnement, qui permettent de collecter aussi des données en nombre extrêmement importante et qui, par conséquent, viennent rejoindre ou alimenter les connaissances qu'on a en neurosciences, en sciences cognitives, sur la performance et d'un point de vue fondamental.
Vous évoquiez tout à l'heure en début d'émission, pendant qu'Axel est en train de tousser, vous évoquiez beaucoup les intelligences artificielles qui sont en plein essor. Est-ce qu'elles peuvent avoir un rôle aussi aujourd'hui dans la traite des données? Que ce soit la collecte ou même le traitement derrière?
Alors, plutôt le traitement, hein, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va permettre d'identifier des régularités, des liens de causalité et de faire des projections, par exemple, sur la formation ou la préparation, l'entraînement d'un sportif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des données en quantité très importante sur le suivi de l'entraînement et de la performance des sportifs, si on donne à traiter à des outils d'intelligence artificielle, ces outils vont permettre d'identifier finalement les éléments importants qui permettent de prédire des améliorations de performance, des réalisations de performance qui sont importantes.
Eh bien, merci beaucoup Nicolas Benguigui d'être venu à notre micro. Je rappelle, vous êtes chercheur au GREC, le laboratoire de sciences numériques de l'université de Caen. Bonne journée à vous et merci encore d'être passé.
Merci beaucoup, bonne journée.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Et avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. Et on commence cet agenda avec le Dôme qui vous propose demain à 17h un atelier Creative Coding Club, code créatif pour les non-bilingues. Le but sera de réaliser une fabrique à GIF à base de caméras, de cartes électroniques, de capteurs et d'un robot à dessiner. Un atelier qui aura ensuite lieu toutes les deux semaines. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, rendez-vous sur le site ledôme.info.
Et puis, comment faire face à la surpêche en Méditerranée? Une solution a vu le jour au large de Marseille, où une entreprise a mis au point une véritable nurserie à poissons. C'est le titre de ce documentaire Arte Regard, disponible en intégralité sur YouTube depuis vendredi, et que nous vous conseillons vivement.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Anaël, la technique aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine dans quelques instants. Rendez-vous avec Johan pour la Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.